comme chaque lundi, on sait, il y a jour de repos sur le Tour de France, les rois de la pédale au repos, c'est journée machine à laver aujourd'hui. Mais Bistro Vélo ne s'arrête jamais. Un grand et beau Bistro Vélo à venir. On va découvrir un grand menu, un menu bourguignon aujourd'hui. Regardez en menu, les cuisses de grenouille, oui, pour vous parler des coureurs français sur les 9 premières étapes du Tour de France 2022. Volaille de Bresse pour parler d'un grand champion qui est notre invité aujourd'hui. Un garçon natif de Saône-et-Loire à venir. Et puis Piquenchâne, c'est une petite douceur, bien sûr. C'est un gâteau, justement, bourguignon, avec le questionnaire Bistro Vélo à venir. Notre invité, et on est ravis de l'accueillir dans Bistro Vélo, c'est Bernard Thévenet. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Bernard. C'est jour de repos à Morzine pour le Tour de France. C'est quoi un jour de repos de Bernard Thévenet?
C'est un jour occupé comme les autres. Hein. Depuis 10 heures ce matin, je cours à gauche, à droite, il y a des réceptions, il y a des interviews, je suis allé dédicacer un livre et je suis logé à combien, une douzaine de kilomètres, enfin à Voria. Alors je connais, ça me rappelle un peu mes jeunes années, mais ça fait une douzaine de kilomètres de Morzine, donc il faut un petit moment pour faire le voyage.
Regardez le CV de Bernard Thévenet, vous nous dites s'il y a des erreurs. La petite page avec Bernard Thévenet, directeur sportif, ancien sélectionneur de l'équipe de France sur route, ancien coureur et au palmarès éloquent. Né le 10 janvier 1948, 2 Tours de France pour Bernard à son actif en 75 et en 77. 9 étapes remportées dans ses 11 participations au Tour de France. 2 critériums du Dauphiné pour Bernard Thévenet, le Tour de Catalogne, le Tour de Romandie. Bernard qui a été champion de France sur route également en 1973. On n'avait qu'une page Bernard, on n'a pas pu tout noter non plus. Il en manque et il y avait ses premières victoires dans les jeunes années en amateur également.
Oui, j'avais été champion de France amateur, double même, parce que j'avais été également par équipe. C'est ce qui m'avait permis de passer professionnel 2 ans plus tard. J'ai aussi gagné une étape au Tour de l'Avenir, mais ma première grande victoire, c'était au Tour du Roussillon. J'étais amateur et j'avais battu Luis Ocaña à l'époque, que je ne connaissais pas, lui ne me connaissait pas non plus. C'est peut-être pour ça que j'avais battu d'ailleurs. Mais c'était ma première grande victoire amateur, ça fait vraiment plaisir.
Il ne s'était pas méfié de vous, Luis Ocaña, à l'époque. On va parler évidemment du Tour de France, revenir, Bernard, sur ces 9 premières étapes de l'édition 2022, parler de ce très bel ouvrage qui parle de vous. Il y a des superbes photos, cet ouvrage, Le mythe illustré, Bernard Thévenet, chez Mareuil Édition, en collaboration avec Jean-Paul Vespini. Et puis il y aura notre questionnaire également, Bernard. D'abord, le Tour de France, Bernard, est-ce que vous avez apprécié ce départ de l'étranger? Question, là on a vu ces 3 jours au Danemark, on a vu cette ferveur populaire, Bernard. Est-ce que vous êtes friand de ces départs à l'étranger? Il y aura Bilbao et l'Espagne lors de l'édition 2023, Bernard.
Mais moi, ça ne me dérange pas du tout hein, qu'il y ait un départ de l'étranger, du moment qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut quand même qu'on revienne en France assez rapidement. Il faut surtout qu'on passe les Alpes et les Pyrénées, bien sûr, et puis qu'on finisse à Paris. Sinon, ce n'est pas vraiment le Tour de France. Mais sinon, c'est bien d'aller à l'étranger comme ça, parce qu'au départ du Danemark, il y avait une ferveur, il y avait une foule incroyable le long des routes, beaucoup plus qu'en France. Parce que le Tour de France est une épreuve qui est internationale. En France, on a tendance à la considérer un peu trop nationale, peut-être. Donc, on prête peut-être un peu moins d'attention au Tour de France dans notre propre pays, qu'au Danemark, par exemple. Pour eux, c'est un événement extraordinaire, puis ils ne sont pas prêts de le revoir. Alors. Donc, ils en profitent.
On a vu Magnus Kort-Nielsen qui s'est fait plaisir aussi. L'émission Bistro Vélo, en live, sur la page Facebook d'Eurosport. Vous n'hésitez pas à poser vos questions à Bernard Thévenet sur cette page Facebook, et puis en podcast également sur toutes les plateformes d'écoute. Bernard, c'est devenu un immense événement. Vous participez encore à ce Tour de France aujourd'hui. Vous vous rendez compte de cet événement, justement, il y a 30-40 ans? Est-ce que vous pensiez que ça allait prendre cette envergure? On voit, justement, comme vous êtes suiveur, vous, cette foule qui se déplace de ville en ville.
Il y a toujours des moments un peu durs pour le Tour de France. Donc, il y a des moments, c'est-à-dire, le Tour de France, il y a peut-être moins de... on porte peut-être moins d'attention et tout ça, mais finalement, il y a quand même une très, très grande ferveur. Mais oui, il y a 30 ou 40 ans, ou même 50 ans, il y avait un petit peu moins de monde sur le bord de la route, parce que les gens, ils étaient plus à faire 50 km pour aller voir le Tour de France. Maintenant, les gens, ils font 100 à 120 km pour aller voir passer le Tour de France. Donc, il y a un peu plus de monde qu'auparavant. les gens se déplaçant plus facilement. Mais bon, la ferveur est peut-être un peu différente. Je pense que c'est un peu dans tous les sports pareil. Hein. Il y a 50 ans, les gens s'intéressaient à un sport, ou à plusieurs sports d'ailleurs, qu'ils connaissaient très bien. Maintenant, les gens s'intéressent plus à un événement. Ils s'intéressent au vélo quand il y a le Tour de France, ils s'intéressent au tennis quand il y a Roland-Garros. Les gens sont... ils zappent plus qu'avant, alors qu'avant, c'était plus fidèle à un sport, je pense.
Et ce bonheur de sport gratuit, hein, le plus grand sport gratuit, justement, pour cette foule. Les premières étapes, Bernard, est-ce que le Tour de France est déjà plié? Allez, on y va. Est-ce que Tadej Pogacar a déjà remporté un troisième tour consécutif?
Non, le Tour de France n'est pas plié, il a à peine commencé. Hein, ça fait jamais qu'une semaine, il a commencé, il y a encore deux semaines. Hein. Non, et il y a encore les Alpes et les Pyrénées à passer, donc ça n'est pas plié. Même si Pogacar... s'est imposé à ses principaux rivaux, il ne les a pas écrasés comme il a fait l'année dernière, par exemple. Hein. Donc, il reste encore quelques espoirs de grandes bagarres avant la fin du tour.
Qui vous voyez comme principaux adversaires? On a vu, hein, le seul qui est sous la minute, c'est Jonas Vingegaard, le coureur de la Jumbo. Est-ce que vous trouvez que les adversaires de Tadej Pogacar sont assez, j'allais dire, véhément,
est-ce combatif.
Combatifs, ouais.
Ouais, je pense qu'ils sont assez combatifs, mais ils peuvent difficilement le combattre dans d'entrée de jeu, si on peut dire. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à des gros combats et dans la montée du Granon et dans la montée de l'Alpe d'Huez. Parce que maintenant, les directeurs sportifs ont tendance, et les entraîneurs aussi, ont tendance à garder leurs coureurs, enfin, garder les forces de leurs coureurs pour les fins d'étape. Et c'est là, je pense, où on verra le plus beau spectacle. Mais pour pouvoir vaincre Pogacar, moi, je pense qu'il faudrait que les équipes n'hésitent pas à envoyer les seconds leaders loin de l'arrivée pour mettre l'équipe de Pogacar en difficulté.
Il y a trop de calculs, selon vous, Bernard? Il n'y a pas assez de folie? C'est trop, justement, de calculs pour cette montée finale ou ces montées finales?
C'est vrai que maintenant tout est calculé parce que on sait combien de watts peut produire un coureur, à quel moment il peut les produire. Donc j'ai peur que maintenant on fasse passer la science, c'est-à-dire les calculs avant l'intuition. Avant on n'avait pas tous ces instruments-là, donc on attaquait à un moment, on regardait comment on était par rapport à l'adversaire, tout ça, et si on avait une ouverture, on attaquait. Maintenant, j'ai l'impression qu'on dit au coureur, ben voilà, tu vas être bien de tel à tel endroit et tu vas faire ton effort à cet endroit-là. Mais on ne sait pas comment sera la course à cet endroit-là. Donc, on a gagné beaucoup plus en fiabilité, comment je vais dire, du potentiel. Mais on a quand même perdu beaucoup dans le panache et l'intuition. Et même dans la tactique ou la stratégie de course.
Justement, on a beaucoup parlé de travail d'équipe, de tactique avec les directeurs sportifs, Bernard. Vous avez bénéficié de travail justement de tous vos équipiers. On a beaucoup dit, c'est peut-être moins le cas cette année avec Tadej Pogacar, bon, qui se débrouille tranquille. Il a beau avoir les Ineos, il a beau avoir les Jumbo à ses trousses. Bon, il a besoin de personne en fait. Ça, c'est troublant aussi.
Si, il a besoin de ses coéquipiers, mais il y a des moments de course que je ne comprends pas très bien. Par exemple, l'autre jour, Wout van Aert a fait une grande échappée. Je pense qu'il était pratiquement voué à l'échec, mais je pense le but des Jumbo, c'était de fatiguer l'équipe de Pogacar, d'obliger l'équipe de Pogacar à faire un gros effort pour que Pogacar ne puisse pas avoir d'équipier autour de lui dans la montée vers Longwy. Et en réalité, il y a Bora, je sais pas, quelques autres équipes qui ont roulé. Donc, si on veut empêcher Pogacar de gagner, il ne faut surtout pas l'aider dans les moments difficiles. Et l'année dernière, c'était pareil. Hein. Il y a des moments où Pogacar est en difficulté. Et finalement, ce sont d'autres équipes qui ont roulé, alors qu'il n'avait plus d'équipe autour de lui. Donc, il faudrait peut-être qu'on revienne à une tactique un peu plus ancienne, où la fin du fin, ça consistait à fatiguer le leader et à essayer de les sceller.
Les adversaires de Pogacar, Bernard. Quand on regarde le classement général là, à l'issue de la 9e étape, vous avez raison, il reste deux semaines de tour, n'oublions pas. Vingegaard à 39 secondes, Geraint Thomas à 1,17, Yates à 1,25, les Français Gaudu et Bardet 5e et 6e à moins de 2 minutes, à 1,38 et 1,39. Qui peut vraiment l'embêter, Bernard?
Je pense que pour l'instant, celui qui l'ennuie le plus, c'est Vingegaard, bien sûr. parce que je ne pense pas que Geraint Thomas puisse revenir à un très très haut niveau et reprendre beaucoup de terrain à Pogacar. Je souhaite que Gaudu et Bardet puissent bénéficier, comme ils sont un petit peu plus en classement général, qu'ils puissent bénéficier de quelques bons de sortie. Mais quand on est dans l'Alpe d'Huez ou dans le Granon, hein, on a beau avoir un bon de sortie, il faut avoir les ressources, avoir les watts, comme on dit maintenant, nécessaires pour pouvoir déjà suivre Pogacar avant de penser à le devancer. Si Roglic n'était pas tombé, la tenaille, la Roglic Vingegaard aurait certainement posé beaucoup plus de problèmes.
Ah, on a beaucoup parlé de ce travail d'équipe. On verra comment les Ineos également vont se comporter. On a parlé de Pidcock, on a parlé de Geraint Thomas, de Yates. Vous avez parlé de Wout van Aert, Bernard, qu'on a vu actif, qu'on a vu remporter déjà deux étapes. Assez impressionnant, très impressionnant, porteur du maillot jaune, Bernard. C'est possible qu'un jour, il joue le général au Tour de France ou c'est un vain rêve?
Je ne sais pas. Ça demande encore un peu confirmation de son adaptation à la haute montagne. Parce que on a vu, c'est l'an dernier qu'il y a quelques défaillances dans l'autre montagne, mais même s'il avait remporté l'étape du Ventoux, en montant deux fois le Ventoux, c'est quand même un sacré exploit. Mais il faudrait qu'il soit un petit peu plus sage, parce qu'on ne peut pas courir après le maillot vert, faire des efforts tous les jours, comme il l'a fait, sans perdre de temps. On l'a bien vu l'étape de Longwy. Hein. Il a voulu faire, enfin, je pense qu'il s'est en quelque sorte sacrifié pour l'équipe. Est-ce qu'il est capable vraiment de tenir pendant 3 semaines? Parce que le Tour de France, ce qui est difficile, c'est d'être là tous les jours. Pas tellement de faire des exploits de temps en temps, mais c'est surtout d'être tous les jours. Hein. Moi, je dis souvent que le Tour de France, c'est facile à gagner parce qu'il suffit de faire deux belles étapes. Par contre, difficile, c'est le plus dur, c'est de ne pas le perdre. Parce qu'on peut le perdre à chaque moment pendant les 22 étapes.
Et ceci, Bernard, une quête qui se prépare, j'imagine, très longtemps à l'avance sur le calendrier auquel doit penser un Wout van Aert. Par exemple, si jamais un jour il venait à penser au classement général Tour de France, j'imagine que ça se prépare bien, bien, bien avant.
Oui, il faudrait qu'il modifie son calendrier. Et s'il modifie son calendrier, ça veut dire peut-être de faire une croix sur les classiques, là où il est très bon. Donc, ce n'est pas un choix facile à faire. Hein. Ce n'est pas un choix facile à faire. Je pense que il va peut-être essayer cette année de voir comment il est dans la montagne. Et puis s'il trouve qu'il n'est pas assez régulier dans la montagne, je pense qu'il fera un deuil sur une victoire possible au Tour de France.
Un mot des Français, Bernard. On a vu David Gaudu, qui est pour l'instant le premier au classement général. Il est cinquième à 1 minute 38, le grimpeur de la Groupama FDJ. Romain Bardet, pour DSM, est à 1 seconde derrière David Gaudu. On a vu sur la route hier Thibaut Pinot, battu par Jungels. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, d'un Bardet qui a connu des podiums déjà, d'un David Gaudu qui est là, qui est présent, qui est exact au rendez-vous?
Si les classements pouvaient rester comme ça, qu'on ait deux Français dans les 5 premiers, je pense qu'on serait bien content. On aurait besoin d'une victoire d'étape ou deux, et le bilan serait relativement satisfaisant, hein, pour les Français. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de coureurs capables de se battre contre Pogacar, ni même Vingegaard, je pense. Et puis encore, quand Bernal sera rétabli, parce que je pense qu'un jour il sera rétabli, ça va être très compliqué d'être sur le podium du Tour de France pour les Français. Donc si cette année, on a deux Français dans les 5 premiers, moi je pense que ça serait très bien. Il nous manquerait quand même une ou deux victoires d'étape, et le bilan serait vraiment satisfaisant.
Il y a Eric sur la page Facebook, Bernard, qui nous demande, est-ce que vous croyez, Bernard, en une victoire de Thibaut Pinot avant la fin de ce Tour de France? Ça peut être décisif cette semaine, par exemple.
Bah, il a montré de très très bonnes qualités hier. Hein. Il est revenu à un très très bon niveau. Bon, peut-être qu'il aurait dû essayer de partir, mais bon, une fois la course finie, c'est toujours facile de dire, il aurait fallu faire comme ci, comme ça. Hein. Donc lui, il a pensé que Jungels allait s'éteindre petit à petit devant. Ça n'a pas été le cas, parce que Jungels a vraiment tenu le coup jusqu'au bout. Peut-être que ça avait été un autre coureur que Jungels, peut-être que Pinot aurait réussi à le rattraper. Malheureusement pour lui, Jungels avait vraiment fait une excellente étape hier. Mais ça démontre quand même que Pinot est physiquement beaucoup mieux qu'il ne l'a été pendant un temps. Et moi, je pense que oui, si les circonstances lui sont favorables, il pourrait gagner une étape.
À suivre. Est-ce qu'il y en a aussi qui vous manque? Alors, Julien Alaphilippe, c'était une course contre la montre, Bernard. C'était évidemment un grand défi que de savoir s'il pouvait participer à ce Tour de France 2022. Est-ce qu'il vous manque déjà, Bernard, dans cette édition?
Il manque, oui, parce que s'il avait été en bonne condition physique, je pense qu'il pouvait peut-être remporter l'étape de Longwy, par exemple. Hein. Mais si ses médecins ont estimé qu'il ne ferait pas le Tour de France, parce qu'ils ont estimé qu'il ne pourrait pas gagner d'étape, qu'il n'avait pas assez de, encore recouvré assez de force. Et je pense que c'est une sage décision, parce que le Tour de France, c'est une épreuve qui est très dure tous les jours. Tous les jours, c'est très difficile et si on n'est pas à 100% de ses possibilités, c'est pratiquement impossible et de faire une place et de gagner une étape. Donc, je pense que pour lui, c'était beaucoup plus sage de finir de se soigner bien comme il faut, de s'entraîner bien comme il faut pour les épreuves de fin de saison. Parce que s'il avait fait le Tour de France, je pense qu'il risquait d'obérer sa fin de saison et ben, on espère tous qu'il aura un troisième titre de champion du monde. Ça serait exceptionnel, je crois que c'est jamais arrivé. Mais il nous a tellement surpris jusque-là qu'on espère qu'il va encore nous surprendre cette fois-là.
Il a annoncé, Bernard, qu'il allait participer à la Volta. Ce sera à partir du 19 août prochain. Ce sera un départ des Pays-Bas à Utrecht. Ce sera sur
Oui, non,
Eurosport.
mais c'est une bonne préparation pour les championnats du monde, hein.
Ouais, il y aura du grand spectacle sur ce Tour d'Espagne avec Julien Alaphilippe. Donc, ça va se jouer où, Bernard, ces prochaines étapes? Il y aura cette arrivée à Megève demain. Il y aura l'Alpe d'Huez mercredi. Ça vous parle, Bernard? Où est-ce que vous allez être attentif sur quelle journée vous allez être attentif, Bernard?
Je pense que le Granon risque de faire plus de dégâts que l'Alpe d'Huez. Mais tout dépend comment se fera la course, si la course est dure avant ou pas, chacune de ces deux montées. Mais la montée du Granon est vraiment très, très difficile. Et je pense que ça peut creuser des écarts peut-être supérieurs à ceux de l'Alpe d'Huez.
Vous avez le temps de tout voir, Bernard, sur votre rôle pendant le Tour de France. Est-ce que vous avez le temps de tout regarder, de pouvoir parler aux coureurs et tout ça?
Parler aux coureurs, non, parce que c'est compliqué à cause des restrictions Covid, parce que on n'a pas envie d'aller contaminer les coureurs. Hein. C'est quand même un crime que d'aller risquer de porter le virus chez les coureurs. Donc, on a très peu de contacts. Mais bon, beaucoup de journalistes ont des contacts et on lit la presse, on écoute la presse et puis on est quand même relativement bien renseigné. Hein.
Avec quel rôle pour vous, Bernard? Vous êtes ambassadeur? Toujours,
Alors, je
encore?
suis ambassadeur, je fais les relations publiques. J'ai une voiture avec un pilote et j'ai deux invités chaque jour que je prends en main au moment où ils arrivent, à partir du moment après qu'ils soient arrivés au village. On va souvent voir le paddock des coureurs, ben, on ne les voit pas toujours de très près, justement pour les problèmes, les restrictions sanitaires. Et puis après, on va à l'étape, on est un peu devant les coureurs. Puis s'il y a une échappée, ben on va suivre l'échappée, on va voir un petit peu le devant du peloton. Puis j'explique aux gens, je leur montre l'intérêt du tour, c'est pas parce que c'est pas seulement une course de cycliste le tour. Il y a tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment un événement exceptionnel où on trouve, c'est sûrement l'événement où on trouve comment dire, l'intergénérationnel le plus écarté, le plus grand. On trouve depuis les bébés de 6 mois, on s'appelle normalement. Dans ce qu'ils vont se rappeler, mais jusqu'au centenaire, c'est un des rares moments où toutes les familles peuvent être réunies pour assister au même événement. Et il y a les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Ça a une sorte comment dire, de caractère social aussi. Et en plus, c'est gratuit, ça coûte rien. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir, parce qu'on a aussi besoin en ce moment, hein, de se faire plaisir, de se réjouir.
Et de ces grands bonheurs. Est-ce que vous roulez toujours? Alors peut-être pas ici à Morzine, vers la montée vers Avoria, mais est-ce que vous roulez? Pas assez.
Pas assez, mais il faudrait que je m'y remette en rentrant, là, parce que je me suis un peu rouillé là, et faudrait dérouiller la machine, parce que sinon, elle va être complètement grippée.
Vous auriez aimé, Bernard, on parle de vous, on va parler de votre carrière évidemment. Vous auriez aimé courir en 2022, faire partie de ce peloton par exemple?
C'est très, très différent, mais bah, pour les salaires, ouais, j'aurais bien aimé, parce que n'avait pas des salaires comme ça. Par contre, on se régalait certainement beaucoup plus. On était beaucoup plus libre de nos mouvements. Je sais que les entraînements, par exemple, sont barbants maintenant pour les coureurs, hein. C'est très dur. Ils ont un régime alimentaire aussi beaucoup plus sévère que nous, parce que nous, c'était de l'empirisme, on ne connaissait pas exactement. Maintenant, il y a des recherches qui ont été faites, et il y a des nutritionnistes de très haut niveau qui savent exactement ce dont ont besoin les coureurs. Donc, ils sont beaucoup plus encadrés, beaucoup moins libres, je pense, de leur mouvement.
Mais peut-être que vous auriez
Et
aimé ça,
bon, c'est.
avoir des entraîneurs perso, des nutritionnistes, un préparateur mental, Bernard. Est-ce que vous auriez aimé ça?
Peut-être, oui, parce que ça m'aurait permis de progresser. Il y a des moments où on a des doutes. Enfin, nous, on avait des doutes en disant, est-ce que je fais comme il faut? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? On n'avait pas de réponse finalement. Alors que maintenant, les coureurs ont des réponses pratiquement à toutes leurs questions. Donc, pour eux, déjà, c'est quand même mentalement, c'est beaucoup plus rassurant.
Il y a Mehmet qui nous dit, Bernard, est-ce que vous êtes pour ou contre les oreillettes? Vaste débat.
Alors ça, c'est un vaste débat. Hein. Oui, effectivement. Eh bien, moi, je serais pour les oreillettes, mais à condition qu'il n'y ait que des renseignements, que des informations. Donc, pour cela, ben, il faudrait que l'émetteur soit confié à, non pas, même pas à l'organisation, mais à quelqu'un de l'UCI, l'Union cycliste internationale, pour garantir vraiment l'équité, et qui ne donne que des informations sur les coureurs échappés, sur les écarts et tout ça, mais pas de consignes comme le font comme peuvent le faire les directeurs sportifs maintenant. Hein. Je pense que donner des consignes par les oreillettes, bon, bah, c'est évidemment, c'est enlever de la spontanéité aux coureurs. Mais il faudra un bon moment pour changer les mentalités, parce que tout le monde fonctionne tellement sur ce système qu'il sera compliqué de le changer.
Compliqué de revenir en arrière. Ce serait qui le Bernard Thévenet du peloton 2022, Bernard? En qui vous vous retrouvez en fait?
Pendant un moment, je me retrouvais en Thibaut Pinot parce que c'est un coureur qui était volontaire, ou en Bardet aussi. Hein. Je pense que Bardet avait il a de bonnes qualités de coureur de Tour de France, parce que c'est un coureur qui fait toujours très attention, qui récupère bien. Et il lui manque peut-être un peu d'avoir un peu travaillé le contre-la-montre. Il a peut-être dû le travailler un petit peu plus. Alors, je ne connais pas tellement ses capacités actuelles. On verra si dans sa nouvelle équipe, il a un petit peu plus travaillé cette discipline.
Alors on verra comment il est placé en dernière semaine. Il y aura ce contre-la-montre à Rocamadour. On suivra évidemment ça sur Eurosport. Il y a un superbe bouquin. On voulait en parler en deuxième partie de ce bistrot vélo. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct, évidemment. Il y a un très bel ouvrage, Bernard. Thévenet, le mythe illustré chez Mareuil Édition en collaboration avec Jean-Paul Vespini. Il y a surtout des photos extraordinaires. Plus de 150, Bernard. Pourquoi ce bouquin avant les fêtes de fin d'année?
La vraie bonne raison, c'est parce que l'éditeur me l'a demandé. La deuxième raison, c'est parce que finalement, ça m'a beaucoup plu, parce qu'il voulait avoir des photos inédites. Donc, j'ai dû replonger dans des cartons que j'avais pas ouverts depuis peut-être une trentaine d'années. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a en même temps remémoré quelques souvenirs. Donc, finalement, ça m'a bien plu de faire ce livre. Et puis en même temps, je voulais donner un peu une leçon d'espoir en disant aux jeunes, quand vous avez une passion, il faut vraiment l'assouvir jusqu'au bout. Moi, je n'étais vraiment pas dans un milieu qui était favorable au cyclisme, mais j'étais passionné, je me suis entêté, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir un jour être dans le peloton du Tour de France, parce que j'avais vu passer le Tour de France devant la ferme de mes parents quand j'avais 13 ans. Et j'ai dit, un jour je vais être là, et j'ai tout fait pour y être, et un jour j'ai réussi à y être.
Il y a une super photo, Bernard, on l'a aperçue avec Seb, sur le tracteur. Alors, je ne sais pas si c'est un Massey Ferguson, Bernard. Il y
Oui,
a ces deux personnes.
vous connaissez la marque, c'est bien.
Il y a ces deux personnes à votre droite. C'est quoi tout ça? J'allais dire, c'est l'enfance, non, parce que vous êtes déjà grand. Ça vous évoque
Bon, ça
quoi?
va. Honnêtement, le tracteur, oui, je l'ai conduit, j'ai fauché de l'herbe quand j'avais 13-14 ans. Mais là, en réalité, c'était un peu après le Tour de France, et la photo, c'était juste pour faire la
Ah,
photo. J'ai pas fauché le pré en entier. C'est mon père qui faisait ça. Mais oui, bien sûr, depuis l'âge de 10 ans à la campagne, il faut savoir manipuler le tracteur, il faut savoir faire des travaux, parce qu'on commence à faire des travaux dans les champs depuis l'âge de 10 ans à peu près. Hein.
Ce serait laquelle photo, Bernard, quand vous dites « j'ai fouillé dans mes cartons 30 ans après », où vous vous êtes dit « ah, je me souviens pas », où vous vous êtes dit « oh, ça c'est magnifique, c'est un souvenir extraordinaire
». J'ai retrouvé les photos de mes premiers exploits. Les photos quand j'étais amateur surtout, parce qu'après professionnel sont plutôt des photos pro. Mais j'ai retrouvé aussi quelquefois des photos de critérium, comme à Château Chinon, il y avait un grand critérium et il y avait des gens qui venaient, puis de temps en temps ils me redonnaient la photo longtemps après, parce qu'à l'époque hein, c'était pas les photos sur les portables hein, il fallait les développer. Mais c'était des photos qui n'étaient pas passées dans la presse et donc que j'avais un peu oubliées.
J'ai vu une photo avec une dame autour d'Espagne pour des cycles, pour vendre des
cycles. C'est incroyable,
ouais.
Mais je ne me souvenais pas de cette photo-là. Je devais être extrêmement concentré sur la course.
Tiens donc. Tiens donc.
Ça valait le coup de se concentrer sur la demoiselle, mais non, ça, alors j'avais complètement oublié.
Il y a des extraits de vos exploits, Bernard. Alors, c'est toujours très émouvant. Avec Seb, on va voir ces exploits. Tour de France 75, Bernard, c'est le premier que vous remportez. Il y a l'Izoard, il y a ces victoires à Pralou et à Serre Chevalier, on reverra les coureurs cette semaine. C'est dingue de voir ces images. Ça, c'est avec Peugeot et c'est des exploits solitaires aussi.
Ben oui, parce que bon, tout le monde se souvient de Pralou, parce que j'avais renversé le tour à Pralou, puisque ça fait renverser, c'est le mot, puisque j'avais 58 secondes de retard au classement général le matin. Et après l'arrivée, j'en avais 58 d'avance. Mais ce n'était pas assez sur Eddy Merckx. Hein. Pour ceux qui se souviennent d'Eddy Merckx, c'était un sacré battant. Il fallait absolument que je fasse une bonne performance le lendemain. Et il y avait la montée de l'Izoard. Je voulais faire quelque chose dans l'Izoard. J'ai réussi à reprendre un peu plus de 2 minutes à Eddy Merckx. Donc après, j'étais un peu plus tranquille. Mais dans la montée de l'Izoard, c'est le souvenir le plus émouvant de toute ma carrière. Parce que là, il y avait une foule phénoménale en montant dans la casse déserte. Et les gens m'encourageaient, il n'y avait pas de barrière. Hein. Les gens, je frôlais les gens, je passais dans une marée humaine. Là, et j'avais l'impression que eux voulaient absolument m'encourager et moi je leur apportais du bonheur. Donc c'était un bon moment.
Et vous aviez le 251, comme quoi. Mais les histoires se construisent. Par exemple, vous gagnez le critérium avant ce Tour de France 75. Il y a le critérium de Dauphiné. Il y a des étapes comme ça. Il y avait eu le Mont Ventoux quelques années auparavant, ça c'était en 72. Il y a eu le critérium de Dauphiné une première fois. Ça se construit pour gagner ce premier Tour de France.
Ben oui, parce que moi, j'étais un peu comme Louison Bobet. Hein. Je suis venu avec le temps, je n'avais pas les qualités intrinsèques, et je dirais même phénoménales, que pouvaient avoir Eddy Merckx ou Bernard Hinault. Hein. Et donc, il m'a fallu un certain temps pour m'adapter, pour m'entraîner, pour bien comprendre comment... il fallait faire, enfin, qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas faire d'erreur. Et quand j'ai gagné le Dauphiné en 75, c'était à 3 semaines avant le départ du Tour. C'est sûr que ça a changé ma mentalité à ce moment-là. J'ai pensé que peut-être j'allais pouvoir au moins être sur le podium du Tour et bon, peut-être le gagner. Mais au départ du Tour, je pensais pas à la victoire. Je pensais surtout à faire le mieux possible. Et puis après, bon, les résultats font le reste. Hein.
Vous disiez, j'ai eu des super directeurs sportifs. J'en ai eu d'autres où, allez, par exemple, j'ai rencontré Walter Goodfoot et ça a été une grande rencontre parce qu'il m'a appris beaucoup de choses.
Oui, à l'époque, on avait un directeur sportif qui n'était pas très tacticien. Et heureusement qu'il avait fait une bonne chose quand même, c'était embauché Walter Goodfoot, qui était un sprinter belge dans l'équipe Peugeot. Et Goodfoot était vraiment un super technicien et il m'a appris beaucoup de choses dans le métier de coureur cycliste. C'est grâce à lui si j'ai progressé, parce qu'avec lui, j'ai vraiment appris beaucoup de choses.
Je regardais, on sera à l'Alpe d'Huez hein, jeudi, 14 juillet, fête nationale. Vous gagnez, ça c'est votre deuxième victoire sur le Tour de France. Il y en a eu 9 en tout, on le disait Bernard. Il y avait une première à Grenoble. Et il y aura le 14 juillet 70 à la Mongie, au départ de Saint-Gaudens. Premier Bernard devant 4 coureurs belges. Vous connaissez les 4
Le 14 juillet à la Mongie.
Ouais.
Il y avait Van den Bosch, Merckx et Van Nym peut-être.
Joli. Van den Bosch fait 2, Van Nym fait 3, Merckx fait 4. Et là, il y en a celui qui fait 5, le 4e belge. C'est dur. Ou Brecht.
4e belge. Non, j'ai oublié celui-là.
Ou Brecht.
Ah, au Brecht, ah oui,
Ouais.
ah oui.
Ça, c'est des plus
Tony
grands
au
souvenirs.
Brecht.
Ouais, c'est des plus grands souvenirs devant quatre coureurs belges et pas n'importe lesquels.
Le grand souvenir, c'est surtout de remporter sa première étape dans le Tour, hein.
À
Parce
Grenoble.
que je suis parti dans le Tour en tant que remplaçant, en remplaçant de dernière minute, parce que, y a deux coureurs qui sont tombés malades. Et Gaston Plot cherchait désespérément deux coureurs pour les remplacer. Il en avait trouvé un facilement, mais le deuxième, c'est pas évident. Donc, il m'a appelé. J'étais pas entraîné, j'étais pas vraiment, pas du tout, du tout préparé pour le Tour de France. Et puis, j'ai beaucoup souffert la première semaine. Je me suis adapté la deuxième semaine et puis j'ai réussi à gagner une étape dans la troisième semaine.
Tout simplement. Vous avez même gagné à Paris. Bravo. Une étape du Tour de France à Paris.
Ah oui, celle-là, elle était vraiment inattendue. Hein.
Ouais,
Elle
bravo.
était vraiment inattendue. C'était une
73. Mais
arrivée.
justement, c'était face à Walter Goldfoot, Bernard.
Comment?
Vous êtes premier à Paris devant Walter Goldfoot, justement.
Oui. Il avait changé d'équipe cette année-là. Et quand on est arrivé à la Cipale, j'avais déjà attaqué avant. Et quand le peloton m'a rejoint à l'entrée de la piste. Et il y avait Jean-Pierre Danguillaume qui était juste derrière moi. Alors je dis, je vais lancer le sprint pour Jean-Pierre. Donc je suis parti, je suis reparti très très vite pour faire au moins la moitié de la piste pour emmener Jean-Pierre. Et je sais pas, Jean-Pierre, lui, au lieu de prendre ma roue, il a monté. Et sur la piste, il a monté les autres coureurs. Et j'ai pris une trentaine de mètres. Et comme je n'avais pas une réputation de sprinter, on m'a laissé les 30 mètres jusqu'à je crois bien, 200-300 mètres de la ligne. Ben après, une fois moi j'étais parti, je ne me suis pas laissé faire et j'ai réussi à l'emporter. C'est Gottfried qui fait deuxième. Après, il est venu me voir, il était furieux avec ça. Il m'a dit, ah, je t'ai
Merci.
mésestimé. J'aurais jamais dû te laisser prendre autant d'avance.
Question indiscrète, il y a Mickaël qui nous dit, qui vous demande surtout, Bernard, qu'est-ce que vous avez fait comme fête le soir de votre première victoire au Tour de France en 75 quand vous remportez votre premier Tour de France? Quelle fête vous
Alors,
faites?
à l'époque, on faisait des critériums après Tour de
C'est
France.
vrai.
Hein. Donc, dès le lendemain du Tour de France, on courait. Donc,
Même pas
on
le
avait fait une
soir,
petite
non?
fête. Le soir, si, on avait fait un repas, mais qui s'était terminé assez tard, parce qu'on avait commencé assez tard, d'ailleurs. Après, on était allé faire un petit tour dans une boîte qui, je crois, était à Yves Mourousi, lequel Yves Mourousi était l'instigateur, justement, de l'arrivée sur les Champs-Élysées. On était resté un petit moment, puis après on allait se coucher, je sais pas, peut-être à 1 heure ou 2 heures du matin, parce que le lendemain, on allait courir à Caen, on faisait une réunion sur piste à Caen, et évidemment, il y avait les voitures et pas les autoroutes à l'époque, hein. Donc, fallait quand même dormir un petit peu.
Et là, c'était bien, parce que là, il y avait des sous, et c'était important, on va le rappeler, à l'époque, d'aller faire ces
Ah,
critériums.
oui,
Ah, c'était très important.
on avait des petits salaires, hein,
C'est
donc,
vrai.
tout le monde cherchait à faire des critériums parce que les critériums ne rapportaient plus que les salaires.
La troisième partie, Bernard, parce qu'il y a ce questionnaire Bistro Vélo. Allez, c'est pour vous. Qui est votre meilleur ami dans le peloton, Bernard?
J'avais des très bons amis, mais mes meilleurs amis, c'était mes équipiers, Jacques Esclassan, Michel Laurent ou Jean-Pierre Danguillaume.
Votre meilleur souvenir, alors vous avez beaucoup parlé, votre meilleur souvenir, s'il y a une journée qu'il faut retenir sur un vélo et vous sur un vélo.
Une journée, bah c'est la journée, ma première journée en maillot jaune, avec la montée de l'Izoard, le sommet de l'Izoard avec les gens qui étaient c'était comme des fous, là, qui m'encourageaient comme des fous. Et puis l'étape qui était le 14 juillet d'ailleurs, qui se terminait à Serre-Chevalier et qui me permettait de reprendre un peu plus de 3 minutes d'écart au classement général par rapport à Merckx. Ça, c'était, je pense, c'était la meilleure journée.
C'était l'extase. Votre premier coup de pédale, vous en avez parlé, vous avez vu le Tour de France à 13 ans, passé devant chez vous, mais le premier coup de pédale, Bernard.
Le premier coup de pédale, c'est sur le vélo de ma sœur pour apprendre à faire du vélo, parce qu'on habitait à 5 km de l'école et il valait mieux y aller en vélo. Donc, mes parents voulaient que je sache faire du vélo avant de m'acheter un petit vélo.
Mais ils ont bien fait. Félicitations. Votre idole de jeunesse, alors vélo et pas seulement. Alors d'abord vélo, votre idole de jeunesse, Bernard.
J'hésite entre, je vais dire Jacques Anquetil. C'est Louison Bobet, Jacques Anquetil, mais bon. Louison Bobet s'arrêtait sa carrière, donc c'était plus Jacques Anquetil.
Et dans la vie, s'il y avait une idole, je sais pas, un chanteur, quelqu'un.
Bon, les chanteurs, j'aimais. Il y avait un chanteur qui me plaisait beaucoup, qui n'a pas sorti beaucoup de chants, qui s'appelait Lenny Escudero. À l'époque, bah, c'était Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Françoise Hardy aussi, hein, qui chantait Sheila, Sylvie Vartan. Il y avait beaucoup de. Il y a une explosion de jeunes chanteurs et chanteuses là, et que finalement, c'est difficile de dire on a une idole, on avait plusieurs idoles.
Bon, c'était Salut les copains, c'était les yéyés.
Voilà,
C'est exactement.
oui,
Ouais,
c'est
c'est
ça,
ça.
c'est Salut les copains.
C'est
Hein.
cette ambiance là. Bon,
Oui.
votre pire souvenir.
Oh, le
Sur un
pire
vélo, hein, sur un
souvenir,
vélo.
c'est l'abandon du Tour en 76. Parce que j'avais remporté le Critérium du Dauphiné 3 semaines avant. J'avais, je sais pas, j'avais de bonnes sensations au départ, puis je suis tombé au bout de 4 jours et après, j'avais vraiment pas l'impression que ça venait de la chute, mais en réalité, quand je regarde bien, j'ai plus remarché, j'avais plus de punch après la chute. J'ai perdu du temps dans le contre-la-montre, j'étais moins bon en montagne. Et j'ai subi une grosse défaillance dans les Pyrénées, puis après j'étais complètement découragé. J'ai abandonné. Quand on vient dans le Tour de France pour le gagner et qu'on est obligé d'abandonner, on se sent vraiment très très mal.
Peut-être que la victoire en 77 du Tour de France, votre deuxième, elle a pour origine cet abandon et cette revanche à prendre sur 76.
Certainement, oui, j'avais une revanche à prendre surtout. J'avais besoin de redonner au public ce qu'il m'avait donné. J'avais vraiment l'impression d'avoir déçu mes supporters en 76, donc je voulais absolument me rattraper en 77.
Allez, dernière question, Bernard, c'est ce qu'on vous pose comme question. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été cycliste? Ben, ça aurait été dommage déjà, mais qu'est-ce que vous auriez fait?
Enfin, mon père voulait absolument que je reprenne ça, que je sois agriculteur, mais ça plaisait pas du tout. J'aurais voulu être mécanicien.
Bon, il y aurait eu des discussions sympathiques avec le paternel. Bon, ben, c'est bien comme ça. On est ravis. Immense merci, Bernard Thévenet.
Je vous en prie.
C'est super, on vous retrouve évidemment sur les routes du Tour de France. Ce mardi, la 10e étape Morzine, les Portes du Soleil jusqu'à Megève. On retrouve évidemment toutes les équipes des Rois de la Pédale avec Guillaume Vigrazia, avec Jacques Durand, Sam Chenel, David Moncoutier, Louis-Pierre Frileux, Florian Pigeon également, le profil. Ça pour un jour, Bernard, de reprise, ça sera pas évident, on le dit, après un jour de repos. Vous réenclenchez très vite là, sur ces moins de 150 km vers Megève.
Oui, en plus il y a des équipes qui ont encore voulu gagner. Hein. Donc il faut quand même intérêt à prendre de bonheur, à essayer d'attaquer. Parce que celles qui n'ont rien gagné, je ne pense pas qu'elles puissent gagner ni au Granon ni à l'Alpe d'Huez. Et finalement, il reste assez peu d'étapes pour les baroudeurs. Donc je pense que les baroudeurs ont vraiment intérêt à faire une belle course demain, d'autant plus que le terrain est accidenté. Il avantage plutôt les attaquants. Et l'arrivée étant située en altitude, l'altiport de Megève, hein, ça monte de fortement. Peut-être bien que les équipes de sprinters vont pas trop se mobiliser pour leur leader parce qu'il n'est pas du tout sûr de gagner. Ils vont plutôt se réserver pour l'étape de Saint-Étienne.
À suivre, il y a un gros programme jusqu'à dimanche. Il y aura les Rois de la Pédale, l'émission avec Géraldine Weber, avec Leslie Boitrel également. Merci beaucoup, Bernard Thévenet. Bonne suite à vous. Immense merci.
Bonne soirée.
Et puis merci à Sébastien Petit, à évidemment la rédaction en chef de Bistro Vélo. À très vite, évidemment, nouveau Bistro Vélo, ce sera lundi prochain. Bye bye.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.